Bon ce matin.
8h17 et nous revenons avec vous ce matin sur les inondations hein, Florent, qui ont marqué notre région ce week-end.
Intempérie catastrophique, hein, 4 morts, 1 disparu, 14 000 sinistrés rien que dans le Var, 300 millions d'euros de dégâts dans le Var et les Alpes-Maritimes. Qui est responsable de tout cela selon vous? Plutôt les communes, plutôt l'État? Vous donnez votre avis, vous témoignez aussi si vous avez été touché par ces intempéries. Vous êtes peut-être en colère ce matin. Vous nous le dites au 04 42 38 08.
Nicole, bonjour, vous êtes à Gréoux-les-Bains.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur France Bleu Provence. À qui la faute, selon vous, Nicole?
L'argent.
Oui.
L'argent. On donne des permis de construire n'importe où. Et là, ça, c'est un vrai drame. Avant, il y avait des guerres, des pandémies. Ça, c'est des nouveaux systèmes pour se débarrasser des gens.
Hein. Là, vous exagérez sûrement en disant ça, quand même. Parce que,
je le vois comme ça. C'est un scandale. Pour le prix qu'on fait n'importe quoi.
On fait n'importe quoi et encore aujourd'hui, pourtant les maires souvent nous assurent qu'ils ne délivrent plus les permis de construire à n'importe qui et surtout pas n'importe où.
Le mensonge est un péché.
Le mensonge est un péché.
Non, là il faut pas exagérer. Venez un petit peu à Gréoux voir ce qui se passe. On a des endroits trois fois inondables. Le Verdon, le Colosse, le Ravin de Valensole. Ce fameux Ravin de Valensole qui tous les 50 ans fait un désastre. On a dépassé la date. Et inéluctablement, nous allons vers une crue bimillénaire. Vous savez là où se trouve l'établissement thermal? Et c'est cette fameuse crue qui avait fait disparaître le thermal romain. Alors quand un thermal romain disparaît comme ça à faveur d'une crue, il y a pas mal d'eau qui passe.
Et vous nous dites qu'à votre connaissance, des permis de construire continuent à être délivrés dans les zones inondables.
Eh oui. Oui, oui, c'est le secret de Polichinelle. Voilà.
Bon, mais en tout cas, la mairie de Gréoux-les-Bains peut nous appeler pour confirmer ou infirmer ce que vous nous dites,
absolument,
Nicole.
Absolument.
Voilà, on va essayer de vérifier tout ça. Merci
Je vous
beaucoup.
Souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, Nicole, pour votre appel. Bonne journée à vous également. Notre expert ce matin sur France Bleu Provence est le président régional de la Chambre syndicale des courtiers en assurance. Bonjour, Didier Bourragnan.
Bonjour.
Vous venez d'entendre ce que vient de nous dire Nicole. Les habitations en zone inondable, est-ce qu'elles peuvent être assurées comme les autres?
Bien sûr, oui, elles sont assurées exactement comme les autres. Hein. Les assureurs, ce n'est pas des policiers. Donc, effectivement, c'est dommage si elles sont en zone inondable. Mais ça, ça ne fait pas partie des choses qu'on va vérifier quand on fait un contrat d'assurance.
Parce que quand vous demandez des renseignements sur l'habitation à assurer, vous ne demandez pas si c'est en zone inondable?
Non.
Pourtant, c'est votre intérêt, parce que si c'est en zone inondable, il y a plus de risques de sinistre.
Oui, mais après, on rentre dans des histoires politiques, si vous voulez, parce que souvent, quand vous vous retrouvez chez le notaire, vous apercevez que ce que vous êtes en train d'acheter, c'est en zone inondable. Et finalement, en fait, quand vous faites une enquête, tout est en zone inondable. Pour ce qui est de mon quartier, par exemple, à Marseille, il est entièrement en zone inondable, pourtant il n'a jamais été inondé. Donc c'est un peu bretelles et ceinture, tout ça.
Ah oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'habitations en zone inondable et pas simplement dans les communes qu'on a citées tout ce week-end. C'est très fréquent.
Voilà. Très fréquent.
Donc du coup, ils ont droit aussi, ces habitations, à être assurées. On vous retrouve dans un instant, Didier Bourragnan, pour nous donner tous les conseils hein, pour les personnes sinistrées. Que faire si on en a subi ces inondations?
Marie-Ange, bonjour, vous êtes à La Ciotat.
Bonjour,
et
oui.
Et vous voyez autour de vous un paysage qui change d'année en année. Hein.
Ah oui. Le moindre parcelle de terre est construit. La colline, elle est ravagée, il n'y a plus de colline à La Ciotat, tout est construit. Donc, il y a aussi ça qui fait qu'il y a des inondations, il n'y a plus de terre pour retenir quoi que ce soit.
Et à votre connaissance, Marie-Ange, il y a quand même peut-être moins d'inondations à La Ciotat ces temps-ci que par le passé quand même?
Mais en ville, par exemple, dans la rue des Poilus, jeudi dernier, le jeudi où il y a beaucoup de magasins qui ont été inondés en ville.
Ah oui, on en a moins parlé parce que c'était peut-être moins spectaculaire qu'ailleurs.
Oui, c'était moins spectaculaire, mais comme il y a La Ciotat, il y a de partout, quoi. Voilà, je me souviens quand moi j'étais minote, il y avait Haroun Taziev qui était venu à La Ciotat et qui avait dit surtout ne touchez pas les collines. Or, maintenant, on s'en fout, il n'y a que l'argent qui compte, construire. Et dès qu'il pleut un peu fort, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien pour retenir l'eau. Et puis ça, voilà, on en arrive aux catastrophes.
Et ouais, c'est trop bétonné à La Ciotat comme ailleurs.
Comme,
c'est
ce que vous nous comme beaucoup, oui.
Merci beaucoup, Marie-Ange.
Merci
et bonne journée à La Ciotat et bon courage donc aussi aux commerçants de La Ciotat qui ont subi aussi ces inondations ce week-end. Dans un instant, nous serons avec Françoise qui viendra nous confirmer ce que nous disait Nicole tout à l'heure sur ces fameux permis de construire qui sont toujours délivrés malgré des zones inondables.
8h23, vous restez prudents sur la route et puisqu'on parle de ces inondations, je vous rappelle les petites routes toujours fermées suite à des éboulements ou des inondations toujours en cours. C'est le cas donc sur la route qui va de Signes à Méhoun sur la D202, c'est le cas entre Néoul-les-Gares et Oul sur la D268 et à Néoul sur la D68, également à Saint-Antonin sur la D250 ou encore à Trigance, les Gorges du Verdon sur la D71. Attention si vous quittez Toulon par la 50, il y a eu un accident à la sortie de Toulon et c'est en direction de Marseille. Deux véhicules impliqués, un accident corporel donc grave, ça risque de prendre du temps. Pour l'instant, il y a 2 à 3 km de ralentissement sérieux en quittant Toulon par la 50 et les bouchons évidemment habituels pour entrer sur Marseille, sur Aix, c'est l'heure de pointe ce matin.
France Bleu Provence, info, trafic et mobilité en temps réel. France Bleu Provence.
Les inondations qui ont touché notre week-end, notre région, on en parle avec vous ce matin, Florent. Question à qui la faute? Qui sont les responsables selon vous? Bonjour Françoise, vous êtes à Septèmes-les-Vallons.
Oui, bonjour.
Et vous rejoignez le témoignage de Nicole qu'on avait tout à l'heure.
Ben oui, parce que moi, bon, ce qui m'a surpris, c'est que vous soyez surpris. Parce qu'en fait, oui, ça se fait toujours. Hein. Il y a des permis de construire qui sont délivrés, alors qu'on sait très bien que ça a été inondé. Il y a des endroits qui ont été inondés, voilà, tout le monde le sait. Il y a quand même des permis de construire qui sont délivrés.
Après, c'est aussi aux personnes qui le savent ne pas faire construire dans ces zones-là, parce qu'ils prennent des risques quand même, ces habitants.
Bah, écoutez, là, en l'occurrence, dans un vallon, c'est un ensemble de logements collectifs.
Oui.
Donc, les gens qui vont acheter le logement collectif, je ne sais pas si on va leur dire que ça a été inondé. Enfin bon.
Ah ben ils peuvent se renseigner. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent se renseigner pour savoir si la zone est inondable ou pas.
Oui, bon. Après.
Après, c'est vrai que ça n'empêche pas que vous trouvez ça tout à fait anormal. C'est bien ça. Hein.
Ça ne devrait pas. Non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce qu'il y a quand même des collectifs d'habitants qui ont dit non, il y a des problèmes. Bon, ça se fait quand même. Ça.
Ouais. Et voilà. Puis après, effectivement, on a l'angoisse, effectivement, à chaque fois que des épisodes méditerranéens sont annoncés en Provence. Merci beaucoup, Françoise, de nous avoir appelé. Bonne journée à Septèmes-les-Vallons. Nous sommes également avec toujours Didier Bourragnan, le président régional de la Chambre syndicale des courtiers en assurance. Très concrètement, que faut-il faire pour être indemnisé le plus rapidement possible? Quels documents donner, par exemple, quand on a tout perdu, tout simplement?
Alors, je rebondis tout de suite sur le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, il va falloir que l'eau s'en aille, il va falloir que ça sèche. Vous n'allez pas être indemnisé le plus rapidement possible. Ce qu'il faut, disons, faire de manière certaine, c'est faire une déclaration propre. Vous faites une déclaration propre à votre intermédiaire d'assurance, que ce soit un courtier, un agent. Les compagnies d'assurance, elles ont l'habitude de ce genre de catastrophe naturelle. Il va y avoir un décret, les dégâts sont tellement importants, il y aura un décret de catastrophe naturelle.
Ça va accélérer les procédures d'indemnisation, ça? Et
non,
les traitements de dossiers, non?
Non, ça va pas accélérer.
Ah, c'est ce qu'on dit d'habitude, pourtant.
Non, c'est juste une autre façon de gérer le sinistre, d'être en catastrophe naturelle ou pas. Et après, c'est chaque compagnie d'assurance qui va décider de faire un plan d'urgence, d'aller chercher des experts dans d'autres régions pour aller plus rapidement sur ces sinistrés, de faire des coups d'information, quoi, hein, tout simplement, en disant nous on a été plus rapide ou moins rapide que d'autres, on a été plus sérieux ou moins sérieux, c'est de la communication tout ça. Mais
ouais.
Ça ne sera jamais plus rapide. Il y a des milliers de dossiers, vous comprenez, donc
oui.
Des experts, il va falloir qu'ils viennent, il va falloir qu'ils fassent leur rapport. Déjà, que chacun fasse une déclaration propre, par mail, ça suffira, qu'il obtienne un accusé réception de son intermédiaire en assurance, juste pour dire, ben voilà, ça y est, ok, on sait, tu es sinistré, on va t'envoyer quelqu'un. Après, oui, tenir les pieds au chaud, mais franchement...
Alors, quel document, par exemple, j'imagine qu'il faut prendre, quand le niveau de l'eau a baissé, il faut prendre plein de photos, ça c'est indispensable. Mais les documents, les factures qui ont pu être emportées par les eaux, comment prouver qu'on avait telle ou telle chose?
Mais pour Évidemment, pour les plus grandes factures, peut-être que vous pourrez obtenir un duplicata de là où vous avez acheté le bien, surtout si c'est récent, puisque maintenant tout est informatisé, donc c'est beaucoup plus facile de garder des archives informatiques. Les photos, c'est le mieux, hein. Je veux dire, ouais. Prenons un exemple concret, quand c'est un congélateur qui va être devoir être vidé et jeté, évidemment on va pas conserver les détritus qu'il y a à l'intérieur, on va tout jeter, donc on fait une photo avant et puis ben on jette, bien sûr on va pas mettre les conditions hygiéniques en cause en plus, quoi.
Bien sûr.
Ce que on cherche finalement, c'est le comportement du bon père de famille. Qu'est-ce que vous feriez vous quelque part si vous étiez pas assuré? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous allez nettoyer votre maison, vous allez faire des photos avant, des photos après, et pouvoir montrer à un futur expert qui va peut-être venir dans 10 jours ou même peut-être même dans 20 jours, parce qu'il y a des milliers de dossiers, ben comment c'était et comment c'est devenu au fur et à mesure, tout simplement.
Ouais, à la limite, quand on a une maison en bon état, il faut prendre les photos de son intérieur, quoi. Si on vous comprend bien, ça peut aider. En deux mots, pour résumer, la durée moyenne d'indemnisation, c'est combien en mois?
En mois?
Oui.
Oh non, moi je sais pas.
C'est difficile à dire. On parle de 4-5 mois en moyenne, ça peut être plus.
Oui, peut-être, effectivement, oui. Mais...